l'émission de l'économie en question, nous parlons ce matin de fiscalité. Fiscalité parce que deux actualités, celle d'abord du ministère des Finances qui nous rappelle que nous serions à l'équilibre, pas de les hausses d'impôts auraient à peu près été compensées par les baisses d'impôts. C'est un point d'ailleurs qui est discuté, on verra s'il le sera par nos trois invités aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, parce que mercredi prochain sera présenté le budget 2017 par le ministre donc des Finances et le ministre du Budget Christian Ecker, Michel Sapin, Christian Ecker, et puis parce qu'il y a cette grande actualité tout de même du prélèvement à la source, une innovation pour la France en tout cas, elle existe déjà dans bien d'autres pays, qui devrait prendre effet en janvier 2018. Tout ceci dans un contexte quand même de doute assez sérieux dans l'opinion au sujet de l'équité dans la fiscalité telle qu'elle est appliquée en France et sans doute ailleurs, qu'il s'agisse des très grandes compagnies nationales, multinationales, rappelées à l'ordre ces derniers temps par la Commission européenne, ou qu'il s'agisse de la désastreuse affaire Cahuzac. C'est de tout ceci que nous parlons, notre thème donc du prélèvement à la source, à l'optimisation fiscale, en passant par la fraude qui paie l'impôt. Nous sommes en compagnie de Yves Jacquin de Peyre. Nous sommes contents d'accueillir pour la première fois l'économie en question qui a fait paraître la réconciliation fiscale. Yves Jacquin de Peyre qui est économiste et ancien avocat fiscaliste. Ce sera bien utile pour notre débat. Vincent Touzé, content également de le retrouver, OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste des questions fiscales, on va le voir, et qui a notamment beaucoup travaillé sur ce prélèvement à la source. Un peu technique, mais on va lui demander de nous éclairer tout cela avec efficacité. Et enfin, Dominique Plion, que l'on salue également, économiste Paris 13, spécialiste d'économie financière. Bienvenue à tous les trois et bienvenue à tous, c'est l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Peut-être d'abord un premier commentaire rapide de votre part à tous les trois sur cette affirmation, effectivement, c'était mardi dernier, je crois, du ministre de Bercy sur la question des impôts. On le sait, très forte hausse d'impôts dans l'année 2012, ceci n'est contesté par personne. Mais depuis, on nous assure au gouvernement que l'équilibre serait rétabli. En fait, il s'agit peut-être d'une mode de calcul, puisque je crois que le gouvernement fait surtout allusion à l'impôt sur le revenu. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Je sais que l'OFCE a fait d'autres calculs. Commentaires rapides les uns les autres.
Bon, je vais bien commencer.
Dominique Plion.
Oui, je suis évidemment en désaccord avec cette affirmation du ministre. Quand on regarde l'ensemble des hausses d'impôts, et pas uniquement 2012, rappelons-nous les hausses de TVA qui ont eu lieu notamment en 2014, il est difficile d'affirmer, ou disons, étonnant que de voir cette affirmation selon laquelle il n'y aura pas eu de hausse d'impôts sur les ménages en particulier depuis 2012, qu'on peut chiffrer, alors, sans prendre en compte les dernières mesures qui vont tenter de réduire cette hausse des impôts des ménages, qu'on a chiffré au départ de l'ordre de 20 à 23 milliards. Donc c'est considérable. Et en même temps, on a eu ce transfert absolument colossal de ressources, parce que quand on pose la question qui paye des impôts, faut aussi, ou des prélèvements obligatoires, il faut aussi poser la question qui n'en paye pas ou en paye moins. Et là, il y a eu ce fameux CICE,
crédit impôt pour la compétitivité
et l'emploi qui s'est soldé par un transfert massif de ressources de l'ordre de 40 milliards en faveur des entreprises sous forme de baisse des charges. Donc ces baisses de charges ont été financées en partie, je pense, par les hausses d'impôts sur les ménages. Je rappelle que en plus ces hausses d'impôts ont aggravé la structure fiscale de la France qui est une des plus, disons, déséquilibrées et injustes au sens où les impôts indirects, c'est-à-dire la TVA en particulier, occupe une place absolument énorme, près de 50% des recettes fiscales, ce qui est différent dans beaucoup d'autres pays où l'impôt direct, notamment l'impôt sur le revenu dont on va parler maintenant, est sensiblement plus important.
Je crois qu'il Yves Jacquin de Peyre n'a pas l'air tout à fait d'accord.
Pas trop s'apesantir sur ces chiffres parce que, si vous voulez, quand on prend le chiffre global de l'ensemble des prélèvements, ça finit par ne rien vouloir dire. Donc il y a des ajustements et n'oublions pas que quand on...
Illustration de la complexité française en matière de fiscalité.
Oui, et surtout, quand on prélève moins d'impôts, finalement, si on dépense la même chose, c'est qu'on va emprunter plus. Et à ce moment-là, les impôts qu'on paye en moins cette année, c'est des impôts qu'on paiera plus demain ou après-demain. Et c'est là qu'il faut vraiment qu'une maturité intervienne dans le débat et que les Français prennent conscience que leur faire des cadeaux fiscaux qui sont financés par de la dette et donc par des impôts que paieront leurs enfants, ça n'a finalement pas grand intérêt. Donc je pense que c'est un faux débat.
Vincent Touzé, non, sur juste cet équilibre, la première année, d'accord, 2012, très forte hausse, mais tout de même des baisses assez sensibles pour toute une partie des ménages qui, pour certains, ne paieront plus d'impôts.
Oui, alors certes, il y a eu une baisse sensible de l'impôt sur le revenu pour les ménages payant très peu d'impôts sur le revenu, hein, puisque bon, en même temps, c'était aussi nécessaire du fait que la mauvaise revalorisation des seuils d'entrée sur l'impôt sur le revenu a fait entrer des gens dans les tranches d'impôts, alors que ces gens auparavant ne payaient pas d'impôts. Alors juste pour revenir sur juste un chiffre quand même, sur le taux de prélèvement obligatoire, hein. En 2011 on était à 45,2. En 2012, il avait déjà beaucoup augmenté parce qu'il y a eu une impulsion en fin de mandat de sous Fillon de hausse des impôts. On est passé à 46,5 PIB. Et en 2014, dernier chiffre sur Eurostat, c'est presque 48% du PIB et TPO. Donc on est quand même sur une tendance haussière.
Oui, je voudrais rappeler juste un travail de France Stratégie, hein, l'organisme chargé d'un peu réfléchir à notre avenir, d'éclairer un peu les enjeux du futur à l'horizon même 2027. Un travail qui vient de paraître, la France serait derrière le Danemark, le deuxième pays de l'Union où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés, donc je reviens sur ce que vous venez de dire, et une fiscalité également qui repose plus fortement qu'ailleurs sur le travail, sur l'appareil productif. En revanche, l'ensemble des impôts sur le revenu, y compris d'ailleurs la CSG, CRDS, etc., ils seraient plus faible, tout comme les recettes de TVA. Vous connaissiez bien entendu ces chiffres que je rappelle pour notre discussion. Et puis, il y a la question de l'optimisation fiscale. Il y a aussi celle de la fraude fiscale et il y a celle de l'évasion fiscale. Déjà, première distinction, l'optimisation fiscale, rappelons-le, est légale. Yves Jacquin de Peyre, allons un peu plus loin et allons jusqu'à la fraude.
Oui, alors ça c'est vraiment... pour moi, le sujet central est le sujet oublié. Pour toutes sortes de raisons, on n'a jamais envie d'en parler. Mais la réalité du sujet de la fraude fiscale, ce sujet de la fraude fiscale n'est plus du tout le sujet central pour les hauts revenus et pour les grandes fortunes. Il faut être clair, les gens qui ont de très hauts revenus et une grande fortune en France, ils sont parfaitement ciblés par l'administration fiscale. Nous avons une des meilleures administrations fiscales du monde et il ne faut pas croire qu'il y a une importante fraude fiscale des grands capitaux et des grands revenus.
Mais la pourquoi manière... Parce qu'ils sont partis ou parce qu'on arrive à les retrouver?
Non, mais parce que d'abord, c'est tout simple. Oui, on a vu les choses invraisemblables qu'a pu faire un Cahuzac, mais si vous êtes un millionnaire, est-ce que vous avez envie de vous retrouver dans la situation de M. Cahuzac? C'est absurde. Cela fait 30 ans qu'on le constate. La bascule s'est faite sous Giscard d'Estaing quand l'administration fiscale est devenue excellente en France. Et progressivement, la réaction des riches en France, quand ils trouvent qu'ils payent trop d'impôts, c'est de partir. Après, la fraude fiscale reste un problème, mais c'est beaucoup plus un problème, soit une extrémité de délinquants et de hors-système qu'on a beaucoup de mal à traquer, et en particulier la fraude à la TVA, mais tout le monde sait que la fraude à la TVA...
Qui est très importante et beaucoup plus peut-être.
Oui. Et ce ne sont pas les grandes entreprises françaises qui fraudent à la TVA, c'est des systèmes mafieux contre lesquels on ne sait pas agir. C'est là-dessus qu'il faudrait concentrer, à une extrémité. Et à l'autre extrémité, vous avez tout le problème de la bascule de l'économie dans le monde virtuel, et que ça soit Airbnb, Uber, Apple, Google et les autres, on a d'énormes difficultés à leur faire payer l'impôt parce que la structure de notre système fiscal n'a pas été conçue pour ces gens-là. Donc on crée en plus, on accélère le processus de destruction de l'économie traditionnelle parce que l'économie traditionnelle a tous les prélèvements sur le dos et les nouveaux entrants avec les systèmes fiscaux d'optimisation qu'ils mettent en place arrivent à échapper grosso modo à l'impôt. Donc ils y gagnent une part de productivité supplémentaire parce qu'ils échappent à l'impôt. C'est profondément injuste.
Vincent Touzé, sur ce point, ou Dominique Plion, on reste sur cette question-là.
Non, alors c'est vrai que la question de l'optimisation fiscale, dès lors qu'elle s'inscrit dans un cadre légal, on peut rien faire. La question, c'est comment adapter nos systèmes fiscaux à de nouveaux modèles économiques de production. Et là, effectivement, c'était très bien décrit.
La première des optimisations fiscales, c'est de franchir la frontière, ne l'oublions jamais. C'est ça la solution pour ne pas payer d'impôts sur les successions, pour ne pas payer d'ISF et pour payer beaucoup moins d'impôts sur le revenu.
Et là-dessus, la France n'est pas suffisamment efficace.
Ah, mais la France, c'est une catastrophe absolue. Voilà. Notre système est fait. Passez la frontière, vous ne paierez plus d'impôts.
Ouais. Alors, je voudrais prendre un tout petit peu de recul et faire peut-être, non pas de l'économie pure, mais de l'économie politique par rapport à ce sujet de l'optimisation fiscale. En fait, l'optimisation fiscale, c'est une situation dans laquelle l'impôt est considéré comme une dépense inutile et néfaste pour l'entreprise, celle-ci doit donc à tout prix la réduire. Point barre. Or, en fait, l'impôt n'est jamais regardé par l'entreprise dans cette stratégie-là comme une dépense qui peut être utile pour elle et pour la société. C'est-à-dire source du financement de l'éducation, de la santé, des infrastructures, qui sont extraordinairement importants pour l'environnement.
Dont l'entreprise profite, comme les autres.
Et donc, cette stratégie d'optimisation fiscale, c'est une stratégie qui est extrêmement perverse pour cela. Et donc, il faut que nous, économistes, nous, citoyens aussi, d'une certaine façon, nous regardions avec ces lunettes-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder uniquement cela comme une stratégie d'optimisation au sens de réduire les dépenses. Et je pense, je rejoindrai, et j'aime bien le titre de votre livre, Réconciliation fiscale, parce que je pense qu'il y a aussi derrière cela
même si on ne partage
pas votre point de vue sur ce nombre de sujets.
Non, c'est pas ce que j'allais dire, mais à l'intérieur du livre, ils ne sont pas tous réconciliés.
Non, mais je veux dire par là qu'on a un besoin. Moi, j'en paierai pas le mot de réconciliation, même si je trouve le titre intéressant. J'emploierai le mot de réhabilitation. Je pense qu'il y a un vrai problème dans nos sociétés modernes pour nécessité de réhabiliter l'impôt. C'est-à-dire l'impôt, il a une triple fonction, rappelons-le, il faut le rappeler sans arrêt, c'est de financer les dépenses publiques, bien entendu, et ces dépenses d'infrastructure, d'éducation par exemple, de recherche et développement. C'est deuxièmement de permettre de faire de la redistribution, parce qu'on sait que les inégalités nuisent à la croissance. Et troisièmement, c'est de faire de l'incitation. L'incitation dans le domaine écologique, dans le domaine financier, etc. Et donc, réhabiliter l'impôt, c'est aussi rappeler sans arrêt ses fonctions. Et quand une entreprise optimise, évidemment, c'est pas son souci. Mais nous avons besoin d'avoir une vision beaucoup plus large.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais justement, si vous voulez, pourquoi c'est grave si, par exemple, le marché de la musique passe des magasins de la Fnac à iTunes d'Apple, qui est localisé on ne sait où? C'est que une entreprise française, elle a quand même une sorte d'affectio societatis attachée au pays. C'est-à-dire que une entreprise française, elle est un peu intéressée à ce qu'il y ait une bonne éducation, il y ait une bonne santé, ça va bénéficier à ses salariés, ça va bénéficier finalement au développement de cette entreprise. Mais si c'est une entreprise hors sol, une entreprise qui vient d'ailleurs et qui n'a aucun lien avec la France, qui d'un seul coup vient prélever la ressource, elle ne veut pas payer d'impôts. Il est tout à fait normal qu'Apple, normal entre guillemets, Apple s'en fiche complètement de payer des impôts en France. Il n'a rien à y gagner. Ce n'est pas le cas d'une entreprise fiscale en France. D'où l'importance de l'enjeu sur lequel je reviens toujours, que les capitaux restent en France, parce que si on laisse tous nos capitaux partir, nous n'avons plus que des entreprises étrangères travaillant en France ou des entreprises à capitaux localisées à l'étranger. Et ce que vous soulevez de façon très juste, qui est très importante, presque je dirais cette envie de payer l'impôt, disparaît complètement.
Oui. Alors juste pour mentionner évidemment cette actualité autour d'Apple, vous avez cité Apple, mais bien d'autres entreprises. Engie, l'entreprise française également, vient d'être vertement priée de clarifier ses comptes, dont l'État contrôle 33%. Peut-être allons regarder du côté quand même de la commissaire européenne à la concurrence. C'est elle qui est à l'origine des sanctions qui visent Apple. 13 milliards d'euros, on le rappelle, qu'elle demande à Dublin de réclamer à Apple, ce qui n'arrange pas du tout les affaires du Dublin, mais c'est une autre histoire. Cette commissaire, tout de même, Margrethe Vestager, a l'air de vouloir réellement donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Et cette question de l'optimisation fiscale, de rapatriement des biens, devrait quand même peut-être un peu progresser avec l'action de la Commission, qui jusqu'à présent, il faut bien le dire, ne parlons même pas du Luxembourg, a été assez discrète. Vincent Touzé.
Ce qui est intéressant sur cet exemple-là, c'est qu'en général, dans le domaine fiscal, la Commission européenne est toujours assez prudente, puisque c'est des domaines où les décisions reposent sur l'unanimité. Mais là où la Commission européenne est tout à fait dans son rôle, c'est qu'elle doit défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général, en l'occurrence, quand on défend la concurrence, c'est veiller à ce qu'il n'y ait pas une concurrence fiscale qui soit dommageable. La concurrence fiscale
dommageable pour les autres pays. Voilà,
elle est tolérée, mais elle ne doit pas être dommageable. C'est-à-dire, elle ne doit pas conduire en fait à des avantages qui seraient nuisibles à la concurrence globale au niveau de l'Union européenne. Donc, en l'occurrence ici, l'angle d'attaque qui est très intéressant de la Commission européenne, c'est de se dire que le fait que Apple n'est pas payé d'impôts ou quasiment pas, en fait, c'est assimilable à de l'aide publique. Et en l'occurrence, dans le domaine de l'aide publique, la Commission européenne peut agir en disant, faut rembourser.
Voilà, parce que c'est déloyal vis-à-vis des autres pays.
Alors, ce qui va être intéressant, c'est voir quelle est la réaction de la Cour européenne de justice, si ou non elle est invalide ou pas cette action. Voilà, si elle est valide, effectivement, là, la Commission européenne sera bien embêtée pour agir de nouveau dans ce domaine, mais c'est de façon de se dire que quand même, dans le domaine fiscal, la Commission européenne, elle a un vrai pouvoir pour défendre l'intérêt général.
Yves Jacquin de Peyre ?
Ça pose une question très intéressante sur l'Europe, parce qu'il y a une sorte de paradoxe. Si on veut que l'Europe puisse agir contre Apple ou contre des éléments extérieurs à l'Europe, il faut trouver positif ce que on est en train de dire. C'est positif que par le biais de la concurrence déloyale, l'Europe peut sanctionner des entreprises qui échappent à l'impôt. Mais il faudra s'en souvenir si demain la Commission européenne contredit la France ou va contre une volonté française de faire telle ou telle mesure fiscale. C'est-à-dire qu'on, vous voyez, c'est le problème du beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas tout avoir à la fois. Si on veut une Commission européenne forte pour défendre les intérêts européens, il faudra accepter une Commission européenne et une législation européenne qui, même si c'est par des voies détournées, arrive à encadrer aussi notre liberté d'agir au plan fiscal. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui de la fiscalité. Trop souvent, elle est perçue comme une mesure simple. On entend même des ministres ou des députés dire « yaka ». Or, ce n'est plus vrai. Nous sommes dans un contexte extrêmement complexe et il faudrait accepter de dépolitiser le débat pour chercher les solutions qui sont rares et difficiles à trouver dans un véritable imbroglio de règles.
Oui, il faudrait d'ailleurs une plus grande lisibilité. Je reviens à mon petit rapport de France Stratégie. C'est évidemment ce qu'il demande en premier. Elle est très, très complexe. Dominique Pignon, je voudrais qu'on en arrive au prélèvement à la source, qui n'est pas si éloigné de
avant
la question de l'optimisation fiscale.
Cette pratique générale des fameux rescrits fiscaux, c'est-à-dire les accords conclus par les administrations fiscales française d'ailleurs, luxembourgeoise et championne dans la matière. Mais ce que je suis étonné, c'est qu'on en vienne, c'est seulement aujourd'hui qu'on s'attaque à ce problème. La fameuse affaire LuxLeaks, c'est exactement ça. Et on a un lanceur d'alerte qui aujourd'hui, je le rappelle, est condamné et va... Sa demande en appel va venir au mois de décembre, ce qui est un vrai scandale. Parce que là, il y a une contradiction. D'un côté, la Commission aujourd'hui est en train d'attaquer ces fameuses pratiques qui correspondent à des rescrits sous l'idée que c'est en effet une concurrence déloyale. Mais par contre, on condamne quelqu'un qui a montré que d'autres de ces pratiques-là étaient monnaies courantes dans le passé, notamment le Grand-Duché du Luxembourg, dont M. Juncker était à l'époque le Premier ministre.
Actuel président de la Commission, comme nous le savons. Très vite là-dessus. Yves-Jacques Depeyre,
vous voulez réagir ? Je crois qu'il faut maintenant parler de la retenue à la source, parce que c'est quand même le grand sujet, ça va être le grand sujet de débat, et c'est un sujet qui est quand même, je vais dire, très amusant. Il est amusant de le regarder avec un regard politique. Prenons un tout petit peu de recul, et rappelons-nous 2012. En 2012, Nicolas Sarkozy fait quelque chose de très étonnant, en fin de mandat, il annonce, il fait voter une augmentation de TVA pour le futur. Et qu'est-ce que François Hollande est en train de faire aujourd'hui ? François Hollande est en train de mettre en place une retenue à la source pour le futur. Donc là, c'est intéressant, même pour les économistes que nous sommes, de prendre les lunettes du politique et de s'interroger sur ce qui se passe. Bien sûr, ce n'est pas un hasard si la question de la retenue à la source va apparaître dans la dernière loi de finances du mandat, avec finalement, si je puis dire, la patate chaude donnée au candidat suivant. Et ce qui met les candidats de l'opposition dans une situation difficile, puisque la retenue à la source, elle séduit les Français parce
qu'elle est très populaire. C'est une mesure, je l'ai vérifié encore.
Qu'ils allaient économiser une année d'impôt. Et ce qui est très subtil de la part du gouvernement, c'est que ce n'est absolument pas dit dans la communication gouvernementale. Elle est très discrète. On laisse les Français faire leurs propres calculs et se dire on va y gagner quelque chose.
Alors cette fameuse année blanche, Vincent Touzet, est-ce qu'on peut rappeler d'abord, applicable à partir de 2018, ce prélèvement à la source, qui veut dire qu'on sera imposé sur l'année 2018, quid de l'année 2017, la fameuse année blanche où nous ne paierions pas d'impôts. Vous vous êtes beaucoup exprimé sur cette question et pas toujours, vous n'êtes pas forcément favorable.
Alors, il y a plusieurs aspects sur le prélèvement à la source. Il y a les difficultés techniques de mise en place qui reposent notamment sur... Je pense que c'est bien d'en dire un mot avant de complètement aborder la question de l'année blanche. Donc, au 1er janvier 2018, donc si la loi est adoptée et si elle est définitive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas remise en question par le prochain gouvernement à partir de mai 2017, en l'occurrence, les Français devront payer un impôt prélevé à la source dès le 1er janvier 2018. Ce qui signifie, en l'occurrence, que l'État ne devrait pas le réclamer pour l'année 2018, l'impôt dû pour l'année 2017.
Voilà.
Du fait qu'aujourd'hui, on a un système où l'État nous fait crédit. En fait, on a un an pour payer l'impôt. Dans le prélèvement à la source, l'État ne fait plus crédit. C'est-à-dire que, certes, on peut gagner une année blanche lors de la transition, mais c'est pas forcément un avantage lorsque les taux d'intérêt sont élevés. Alors aujourd'hui, ils sont bas. Donc, de ce point de vue-là, ce désavantage-là est pas très perceptible. Mais si on avait des taux d'intérêt nominaux à 3-4%, on voit bien que ça s'assimile, en fait, le fait de payer un an plus tôt à une hausse de l'impôt qui est égale, en fait, au taux d'intérêt monétaire.
Et alors, pourquoi n'y êtes-vous pas si favorable que ça ?
Alors,
si je vous ai bien dit.
Disons que, il y a une complexité qui est pourquoi faire cadeau d'un an d'impôt à des ménages, donc en l'occurrence les ménages qui concentrent les revenus les plus élevés, et comme on a un impôt progressif, en fait il y a une très très forte concentration de l'impôt sur le revenu, pourquoi faire ce cadeau ? Ensuite, quand on regarde un peu les choses, on voit que l'impact en termes de génération n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que quand on va voir si on est plutôt quelqu'un qui est genre vers 50-60 ans, qui atteint, je dirais, des niveaux de revenus assez les plus élevés de son cycle de vie, et donc un impôt sur le revenu le plus élevé de son cycle de vie, forcément, on va avoir une très belle année blanche. Si on est un très jeune contribuable, qu'on paye pas d'impôt ou qu'on n'est même pas encore contribuable, on ne bénéficie pas d'année blanche. En l'occurrence, on va subir de plein pot quand même le fait que l'État ne fait plus crédit d'un an. Donc ça a quand même un coût, c'est chiffrable. Et sur 60-70 ans de cycle de vie fiscal, c'est-à-dire quelqu'un qui paye à partir de 20 ans jusqu'à 25 ans jusqu'à 85 ans, cette hausse implicite, elle est pas ridicule. Donc la question, c'est voilà, ça n'a pas un impact neutre. Donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de faire payer cette année blanche? Et surtout, ça pose aussi des gros problèmes d'optimisation fiscale qu'on évoquait avant l'émission, qui sont pas ridicules. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut se passer de cette année blanche?
Mais en quoi le prélèvement à la source peut poser un problème sur l'optimisation fiscale? Expliquez-moi ça.
Notamment pour les départs
et les arrivées. Jacques Lepère.
C'est-à-dire que, si vous voulez, alors, si on prend le
côté... j'avais l'impression que ça pouvait au contraire mieux contrôler, non, dans la mesure où c'est prélevé directement.
Ce que je peux me permettre d'intervenir, c'est qu'il y a deux problèmes. Ne regardons pas l'arbre qui cache la forêt. On parle de l'année blanche, c'est-à-dire la transition d'un régime vers un autre. Ça pose des problèmes, on peut ne pas être satisfait avec la manière dont ils sont résolus, le caractère inégalitaire. Mais la forêt, c'est quand même la retenue à la source. Est-ce que c'est en soi, une fois passé la transition, une bonne ou une mauvaise chose? On peut dire que oui, c'est une bonne chose. Et ce gouvernement, que je ne défends pas toujours sur les ondes, loin de là, a eu le courage, contrairement à ses prédécesseurs, de lancer cette réforme. Alors, bien sûr, ça sera les suivants qui ensuite devront l'adapter, etc. Mais je pense que il faut le reconnaître. Et la plupart des pays le font aujourd'hui. C'est populaire. C'est parce que les gens comprennent que c'est plus transparent. Et par rapport à la question de l'évasion, ça peut aussi avoir des avantages. Mais là, j'ai des spécialistes plus compétents moi.
Justement. Et Philippe Jacquin de Peyre. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Il se peut qu'il y ait une bonne surprise avec la retenue à la source. Il est impossible
de dire à l'avance. Du côté de l'évasion, vous voulez dire.
C'est-à-dire que j'appelle la bonne surprise, j'avoue que moi j'ai toujours tendance à me placer du point de vue des finances publiques, malgré tout. La bonne surprise, ce serait que la retenue à la source génère de façon inattendue plus de recettes qu'attendues. Forcément de façon inattendue, puisque par définition, le propre de la fraude, c'est qu'on ne la connaît pas. Tous les gens qui vous donnent des chiffres de fraude, c'est la fraude, on peut dire un peu ce qu'on veut, personne n'en sait rien. Et par exemple, il y a quelques années, quand l'impôt sur les plus-values immobilières s'est mis à être en quelque sorte prélevé à la source, puisque maintenant il est payé par le notaire tout de suite au moment de la vente, alors qu'avant il était payé un an après, eh bien on a eu une bonne surprise, on a constaté que l'impôt s'était mis à rapporter plus. Donc
il se peut
quand même que la retenue à la source ait un petit effet antifraude. Mais quelle complication pour les entreprises. Et donc, par rapport au chômage, je ne suis pas convaincu que ça soit une bonne idée de mettre un problème de plus sur le dos des entreprises. Ça peut amener des réticences, par exemple aux petits entrepreneurs, est-ce que je vais embaucher quelqu'un? Je vais encore devoir gérer ces impôts, ça va être encore plus compliqué. C'est un problème.
C'est un vrai sujet, cela, et ça va tenir dans l'application dont parlait Dominique Pillon dès 2018.
Comme ça s'est rappelé, il y a des difficultés dans le prélèvement à la source, donc il y a ce problème de l'année blanche qu'on vient d'évoquer. Après, c'est techniquement aussi comment l'État sera capable de prélever à la source le bon impôt. Parce que la question, c'est... Et le bon impôt, ça va être pour l'État de calculer le bon taux moyen d'imposition. C'est-à-dire que l'État va évaluer le taux moyen d'imposition d'un ménage, d'un ménage et ensuite d'un individu, et on va le prélever directement sur son salaire ou éventuellement sur des revenus financiers ou sur une pension retraite.
Ouais.
Mais ça veut dire qu'il faut que l'État soit capable d'évaluer en temps réel quel est le bon taux moyen. Et en fait, en pratique, l'État se donnera un taux de départ, il y aura une révision. Mais il y aura souvent aussi une révision avec un an de retard. C'est-à-dire que le prélèvement à la source ne sera pas libératoire. C'est-à-dire qu'on est dans un système fiscal à la française qui a aussi son intelligence. Son intelligence, c'est-à-dire qu'on a quand même un impôt sur le revenu qui est très progressif. D'ailleurs, on l'a vu, on a pu rajouter des taux supérieurs. C'est un impôt aussi qui est familialisé, c'est-à-dire qui tient compte de la structure familiale. Donc, si on est en couple, eh bien, on va intégrer un quotient conjugal, c'est-à-dire que les revenus du couple sont mutualisés. Si on a des enfants, on intègre aussi le fait que les enfants, ils bénéficient des revenus du couple. Et donc, automatiquement, on intègre ça comme des éléments de base fiscale. Et donc, automatiquement, on voit bien qu'il y a toute une complexité liée à la progressivité, au fait que c'est familialisé, qui va faire que c'est plus difficile d'avoir un vrai prélèvement à la source libératoire. Je pense que les Français sont très intéressés par un prélèvement à la source. Ils se disent, c'est libératoire. J'ai payé mes impôts, c'est fini, je ne dois
je
plus rien
plus
à l'État.
Rien, voilà.
Mais si un an plus tard, en avril, ils devaient refaire une déclaration pour vérifier qu'ils n'auraient pas trop ou pas assez payé, bah, ils vont se dire, finalement, je ne me sens pas si libéré de toutes mes obligations fiscales. Et c'est là aussi la difficulté d'avoir un vrai prélèvement à la source qui soit libératoire. Et aussi la question qui était sous-jacente, qui était au départ le projet peut-être du candidat Hollande, c'était réformer l'impôt sur le revenu pour avoir un impôt sur le revenu peut-être qui serait un peu différent.
On rappelle que c'était dans le projet de campagne effectivement de François Hollande, promesse tenue. Donc
effectivement,
promesse tenue, mais laissée au successeur, lui peut-être. On verra.
Le problème, c'est que on a dit, et c'est exact, que la France est un des derniers pays développés à ne pas avoir mis en place la retenue à la source. Mais il y a une raison à cela. C'est que nous avons une tradition fiscale, nous avons une culture de l'impôt qui inclut des notions comme le quotient familial, qui est quelque chose de très important pour la France et dans notre vision de l'impôt.
Et qui n'est pas si fréquent alors ailleurs.
Non, c'est pas du tout fréquent. Cette familiarisation, enfin le calcul, pour être bien compréhensible, le calcul de l'impôt est fait au niveau du foyer fiscal. Et donc structurellement, nous avons un impôt qui se prête assez peu à la retenue à la source. C'est un peu ça la difficulté. Les autres pays avaient plus de facilité.
Eh bien, on verra bien ce qu'il en sera. On aura bien l'occasion certainement d'en reparler ici même. Merci à tous les trois pour vos éclairages et vos analyses. Et je vous ai demandé à chacun de venir avec un chiffre. Nous allons voir lequel. Des chiffres encore. Qui commence, Dominique Plion ?
Oh, ça va être très simple. Un tiers, c'est la proportion des livres qui seront vendus en librairie l'année prochaine. C'est-à-dire que deux tiers des livres seront vendus dans les grandes surfaces et surtout, et de plus en plus,
ah, dans les grandes surfaces, pas seulement Internet.
Pas uniquement, non, par Internet. Et donc ça, c'est quelque chose qui interroge sur l'industrie du livre et aussi de sa distribution et l'avenir des libraires, qui jouent pourtant dans notre société, en France, mais dans d'autres pays européens aussi, je pense, un rôle si important. Et voilà, alors ils s'adaptent, hein, eux-mêmes participent aux ventes en ligne, etc., ils ont leur propre réseau, mais voilà, que devient le livre ? Est-ce uniquement un objet purement comme les autres, qui va être vendu comme ça, d'une manière abstraite et informelle et impersonnelle ? On peut se poser la question, c'est un petit peu inquiétant. Cette évolution.
Merci Dominique Plion. Votre chiffre, Yves Jacquin de Peyre.
Alors, moi, je propose le chiffre 40, un chiffre facile à retenir. 40 comme le CAC 40. C'est le CAC 40, c'est le groupe des 40 plus grandes entreprises françaises. Et puis 40 comme 40 ans qui se sont écoulés depuis 1976. Et au bout de ces 40 ans, nous avons perdu 40% du CAC 40. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En 1976, 90% du capital des entreprises du CAC 40 était détenu par des résidents français. 90% des dividendes que payaient les grandes entreprises françaises étaient imposés à l'impôt sur le revenu français normal, si je puis dire. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 50%. Donc nous sommes passés de 90% de contrôle des entreprises françaises par les capitaux français à seulement 50%. Ces 40% que nous avons perdus, c'est autant de souveraineté perdue, c'est aussi autant de recettes fiscales perdues, ce qui conduit à s'interroger sur certains défauts de notre fiscalité.
Et autant de fragilisation, bien sûr, puisque...
Oui, bien sûr, après vient le déficit.
Eh bien, merci beaucoup, vous êtes excellente nouvelle. Vincent Touzet.
Alors moi, j'ai un chiffre qui c'est zéro. Alors zéro, c'est un peu l'inflation sur un an. On est à plus 0,2, c'est pas beaucoup. Le taux directeur de la Banque Centrale Européenne, entre 0 et 0,25, hein, ça dépend lequel on prend. Croissance deuxième trimestre, on l'a pris hier ou avant-hier, c'est moins 0,1. Donc la question qu'on peut se poser d'un point de vue macroéconomique, bien c'est revenir un peu au sujet de la stagnation séculaire. Voilà, est-ce qu'on va pas passer à l'économie sous zéro ? Est-ce qu'on n'entre pas dans une ère économique glaciaire, j'ai envie de dire, avec une économie un peu bloquée, mise en place de rigidité nominale, etc. Enfin, donc une banque centrale qui peut plus intervenir vraiment avec un taux directeur qui est au plus bas. Donc voilà, grande interrogation sur.
Et votre réponse, allez, un mot.
Faut voir, faut attendre.
Faut attendre. Merci à tous les trois encore une fois. Vincent Touzet au FCE que l'on vient d'entendre à l'instant. Yves Jacquin de Peyre qui fait paraître donc, c'était il y a quelques mois déjà, la réconciliation fiscale, c'est paru aux éditions Odile Jacob, collection Économie. Et en sous-titre, Savoir imposer la richesse, un livre effectivement intéressant où, comme je l'ai dit, on ne se réconcilie pas forcément, on ne réconcilie pas tout le monde, mais il y a bien des choses à apprendre. Et merci également, bien sûr, à Dominique Plion, à samedi prochain. Très très bonne journée à tous et à suivre le journal, bien sûr.